Nous redonnons lecture des deux premiers passages lus ce matin. 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose? Ou qu'une idole soit quelque chose? Non. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Chapitre 11, verset 20. Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale, car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim et l'autre s'enivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous.
L'apôtre revient au sujet de l'idolâtrie. Il a parlé des différentes formes de mal, hélas, réalisées par les enfants d'Israël au cours de leur existence. Et il s'arrête spécialement au sujet de l'idolâtrie à laquelle étaient voués les Corinthiens. Et il y avait des frères à Corinth, des croyants, qui subissaient encore certaines influences de ce culte idolâtre, de ce culte des païens. D'où son exhortation pressante, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie a caractérisé les enfants d'Israël, et M. Darby a exprimé cette pensée qu'en fait, le peuple d'Israël a été foncièrement idolâtre. Une propension très nette chez ce peuple du côté de l'idolâtrie. Les périodes où il fut fidèle au vrai Dieu, à l'Éternel, ont été peu nombreuses et brèves. Il a fallu que Dieu fasse intervenir un élément selon sa pensée, que ce soit un juge, que ce soit un roi pieux, un roi fidèle. Ce fut là des périodes où l'idolâtrie a été abandonnée. Mais en fait, ce peuple a été foncièrement idolâtre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, maintenant que vous êtes devenus des croyants au nom du Seigneur Jésus, vous êtes des chrétiens, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes qui ont l'intelligence des pensées de Dieu, qui entrent dans la compréhension de telles pensées. Ce qui compte, c'est la pensée de Dieu, c'est pas ma pensée. On entend dire quelquefois, je crois que, je pense que, ma pensée c'est que, je suis convaincu. C'est pas un langage qui nous convient, il nous sied pas. L'humilité, la modestie nous conviennent beaucoup plus. Ce à quoi nous devons nous en référer toujours, c'est à ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Je parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. Possesseur d'une telle intelligence spirituelle venant de Dieu, nous sommes à même alors de juger de ce que l'apôtre va nous donner de la part de Dieu. Ce qu'il donne, ce qu'il va nous donner, jugez vous-même ce que je dis. Alors depuis le verset 16, nous avons l'introduction du sujet capital de la scène. La scène vue sous le côté de la communion réalisée. C'est là l'expression d'une unité, d'une communion réalisée, soit avec le Seigneur, soit les uns avec les autres. Tandis qu'au chapitre 11, ce que nous venons de lire nous parle d'un mémorial. Je me souviens du Seigneur parce que j'aime le Seigneur et je tiens à obéir à son désir. L'obéissance va toujours de pair avec l'amour. Un témoignage rendu à l'espérance chrétienne, le Seigneur Jésus vient. Et enfin, cette exhortation, cet appel à marcher dans le chemin du sainteté qui soit à la gloire du Seigneur. Voilà ce que nous avons à réaliser. Et l'apôtre, parlant de la communion, nous parle donc tout d'abord de la coupe, le sang du Christ, par lequel nous avons accès aux bénédictions divines, le sang du Christ, et puis le corps du Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Voilà notre communion avec le Seigneur, qui est mort pour la gloire de Dieu et par amour pour nous. Et au verset 17e, comme mon frère l'a souligné à la fin de la réunion ce matin, nous avons le sujet de la communion les uns avec les autres. Nous qui sommes plusieurs, ou beaucoup, sommes un seul point, un seul corps, car nous participons tous un seul et même pas. Il y a un point sur lequel il importe d'insister, c'est le point de la sainteté qui convient à cette table unique, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas davantage, il y en a une, à la table du Seigneur convient une sainteté donnée. Déjà, il est remarquable que dans l'Ancien Testament, dans l'Ire des Psaumes, nous avons ce passage, la sainteté ou éternelle convient à ta maison pour de longs jours. C'est-à-dire pour tous les jours que nous avons à passer sur cette terre. C'est le dernier verset du psaume 93. La sainteté, ô Éternel, convient à ta maison pour de longs jours. Nous savons qu'il est un frère parmi nous qui maintenant souhaite développer un peu cette pensée, montrer l'importance de cette pensée de la sainteté qui convient à la table du Seigneur. Et nous serons certainement tous heureux de recevoir de tels enseignements pratiques à cet égard, en des temps difficiles, en des temps où nous avons besoin d'être exhortés précisément à l'égard de cette sainteté qui convient à la table du Seigneur.
J'aimerais en effet dire un mot au sujet de la sainteté de la table du Seigneur, de la manière suivant laquelle nous avons à la conserver sainte, et ce qui implique évidemment de ne pas y apporter de souillure personnelle, c'est le sujet du chapitre 11e, mais non plus de souillure contractée ailleurs, et en particulier à d'autres tables. Ce qui s'exprime à cette table du Seigneur, c'est quelque chose d'absolument sacré. Ce sont les signes qui symbolisent ce qu'il y a de plus sacré au monde. Ce qui symbolise la mort du Seigneur, son sang versé, son corps offert. Voilà ce qui est sur la table du Seigneur. C'est à cela que nous avons communion, une commune part les uns avec les autres à ce sacrifice. Le sang est cité d'abord, c'est ce qu'il convient de citer d'abord dans ce passage, parce que c'est lui qui nous purifie de tout péché, et c'est lui qui nous rend propre à nous couvrir cette table. C'est la première chose. Le corps vient ensuite, et le sang séparé du corps, c'est la mort du Seigneur.
Il y avait donc de l'idolâtrie à Corinthe, il y en a toujours dans ce monde. Le monde n'a pas changé. Le culte idolâtre a peut-être disparu de nos pays, mais l'idolâtrie, comme mon frère l'a dit ce matin, c'est tout ce qui prend dans nos cœurs la place du Seigneur, tout ce qui ainsi empêche le Seigneur de pouvoir même agir en nous croyants. Toutes ces idoles, enfants, gardez-vous des idoles. Eh bien, de quoi avons-nous à nous garder? Et puisque le sujet de ce chapitre, et particulièrement aussi de ce paragraphe, traite des choses, de manger des choses sacrifiées aux idoles, c'est par là que nous allons recevoir de l'apôtre et de l'Esprit Saint un enseignement particulier concernant la table du Seigneur et sa sainteté.
De quoi s'agit-il? Manger des choses sacrifiées aux idoles. Que se passait-il à Corinthe? Il se passait plusieurs choses possibles. Il y avait 3 degrés, si nous pouvons dire, dans la manière de manger des choses sacrifiées aux idoles. Il y avait ce qui était permis, d'abord. C'était très courant. Il y avait des sacrifices idolâtres, des sacrifices offerts aux idoles, et ensuite, cette viande se vendait à la boucherie. Et le paragraphe suivant nous montre que, dans ce cas-là, nous n'avons pas à faire état de ce qui s'était passé auparavant. Cette initiature de Dieu, l'idole n'est rien, nous pouvons la manger, voilà ce que dit l'apôtre aux Corinthiens. Et de même, dans le chapitre 8e, il peut leur dire, si vous pouvez vous permettre d'aller au restaurant du temple idolâtre et de manger ce qui est là, mangez-en librement. Mais si un frère a la conscience de l'idole, un frère plus faible, et pense qu'il n'est pas convenable de manger cela, il vaut mieux vous en abstenir. Et puis, dans le dernier paragraphe que nous avons aussi, là, du verset 23 au verset 33, une troisième pensée, si un incrédule vous invite et vous dit « ceci a été sacrifié aux idoles », alors n'en mangez pas. Ainsi donc, dans ce monde, il y a une certaine liberté chrétienne, si nous pouvons dire, de participer aux choses de ce monde. L'apôtre même nous le dit au chapitre 7e, « ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas à leur gré, nous sommes dans ce monde, nous sommes obligés d'y vivre, de nous nourrir, d'aller, de venir, il y a une liberté chrétienne qui s'arrête à ce qui ne convient plus à la gloire de Dieu. Que vous mangiez, dans notre chapitre cela est écrit, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est le verset 31. Voilà la limite. Faites tout pour la gloire de Dieu. Consommez des choses sacrifiées aux idoles si vous n'avez pas conscience de l'idole, si pour vous elle n'est rien. Mais si cela entraîne une mauvaise conscience chez votre frère, il vaut mieux vous en abstenir. Si cela provoque des questions chez l'incrédule, alors si c'est une pierre d'achoppement pour lui, il vaut mieux vous en abstenir. Il y avait donc une possibilité de manger de ces viandes, surtout lorsque j'étais à la boucherie sans étiquette, ça n'était pas mis que c'était sacrifié aux idoles, on pouvait en manger. Il y a donc dans ce monde des choses qui nous permettent de vivre, n'est-ce pas, mais dans la limite où nous pouvons rendre grâce et où nous faisons la gloire de Dieu. C'est la première des choses. Le second point, c'est celui qui nous intéresse, c'est manger des sacrifices idolâtres en rapport avec l'autel idolâtre, C'est-à-dire au moment où les sacrifices idolâtres étaient offerts. Et c'est ce que l'apôtre reproche à ses Corinthiens. Vous avez communion avec l'autel des démons parce que vous mangez des sacrifices qui viennent d'être offerts et vous vous joignez sans même peut-être vous-même, vous êtes joint au sacrifice quand ils étaient offerts, vous vous joignez à la fête qui suit, aux réjouissances, aux tables de ceux qui viennent de sacrifier, vous êtes idolâtres en faisant cela. Voilà l'enseignement fondamental de l'apôtre dans notre chapitre. Il y a un troisième degré qui est évidemment plus grave encore, c'est de sacrifier soi-même aux idoles, de participer soi-même au culte de l'autre, et nous comprenons bien spirituellement que un croyant qui se permettrait d'adhérer à des fausses doctrines, d'avoir une conduite immorale, des choses qui il serait sous la coupe de Satan, véritablement, il n'a pas sa place ou il n'a plus sa place à la table du Seigneur jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il reconnaisse sa faute et qu'il s'en repente. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le deuxième point. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, évidemment. C'est s'associer à des pratiques idolâtres simplement en mangeant de ces sacrifices. Et nous voyons que cela nous constitue idolâtres. Cela nous associe à tout ce qui se pratique à cette table-là. Ce qui se pratiquait à la table des païens, c'était ce qui se pratiquait par ceux aussi qui mangeaient de ces sacrifices. Sans même qu'ils aient conscience de faire du mal, parce qu'ils pensaient que du moment qu'eux-mêmes n'avaient pas offert le sacrifice, ils n'étaient pas concernés. Et ils étaient tout à fait concernés par cette souillure, simplement en mangeant de ces sacrifices. Nous avons des versets qui le confirment, au moins deux, au moins trois peut-être. Lisons le verset 7. Que dit l'apôtre ? Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Ne soyez pas idolâtres comme ceux-là. Qu'ont-ils fait ? L'apôtre ne cite pas le début du verset. Il s'agit du veau d'or, nous le savons bien, de ce qui s'est passé au veau d'or. En Exode 32, c'est une citation d'Exode 32. Le début du verset nous dit « Ils se levèrent de bonne heure et offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de prospérité et le peuple s'assit. » Il y a d'abord eu l'offrande des sacrifices et ensuite on s'est assis à table, on a mangé, on a joué, voilà. Eh bien simplement les fils d'Israël qui peut-être ne s'étaient pas joints à ceux qui avaient offert des sacrifices idolâtres au veau d'or, ceux-là peut-être se sont permis de s'asseoir et de jouer avec les autres, ils étaient idolâtres. Ne soyez pas non plus idolâtres comme eux. Ils s'associaient à la fête sans même avoir sacrifié, ils étaient idolâtres. Nous voyons dans le verset 8, ne commettons pas non plus la fornication comme quelques-uns d'eux ont commis la fornication et il en est tombé un seul jour 23 000. Alors là, il s'agit de l'affaire de Moab, nous connaissons bien, en nombre 25. Et nous savons qu'ils se sont attachés au culte idolâtre de Moab, ils se sont inclinés, prosternés devant Baal Péor, ils se sont même attachés à Baal Péor, est-il écrit en nombre 25. Mais lorsque la chose nous est relatée dans l'Apocalypse, ça concerne directement une assemblée, l'assemblée de Pergame, nous le savons, ça concerne directement cette assemblée chrétienne, il est dit que vous faites ceci, vous faites comme lorsque Balaam incitait les fils d'Israël à manger, il n'est pas dit à faire la fête à Baal Péor, à manger des choses sacrifiées aux idoles et à commettre la fornication. Il insiste sur le simple fait de manger. Vous faites comme Balaam, la doctrine d'Intunaïde, c'est cela. C'est ce laxisme chrétien qui fait que vous associez au monde dans ses fêtes, dans ses façons de faire. Vous associez à son culte, vous êtes idolâtre comme le monde. C'est Pergame, cela, c'est la doctrine des Nicolaïtes à Pergame. Simplement de manger de ses sacrifices. La même chose pour ce qui concerne Israël. Considérez l'Israël selon la chair, verset 18. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel ? Alors là, il s'agissait d'Israël, d'un culte établi par Dieu lui-même. Eh bien, il n'est pas dit
ceux
qui sacrifient en communion avec l'autel, ceux qui offrent des sacrifices, ce qui était vrai, bien sûr, mais aussi ceux qui mangent des sacrifices. Eux aussi, ils ont communion avec l'autel. Il s'agissait des sacrifices de prospérité, il y avait ceux qui offraient le sacrifice, puis il y avait les invités qui mangeaient, et qui, par le seul fait qu'ils mangeaient de ce sacrifice de prospérité, s'associaient au culte de l'Éternel. Ils étaient en esprit, en culte, en adoration, en participant et en mangeant à ce sacrifice. Nous voyons donc que, en s'associant au repas, à une table, on s'associe au culte qui y est rendu, à tout ce qui y est exprimé, sans même vouloir peut-être avoir soi-même le désir de s'associer aux fausses doctrines, d'agir dans un esprit légal, comme on fait à tel ou tel rassemblement, tel groupement, sans même vouloir s'associer à l'immoralité qui est tolérée à telle ou telle table, en se gardant sain soi-même, en disant « je prends la scène pour moi-même, même si je la prends avec les autres », eh bien, la parole enseigne par tous ces exemples qu'en s'asseyant à une table et en prenant la scène, le repas du Seigneur, quelle que soit la table dont il s'agit, on s'associe à tout ce qui se fait, à tout ce qui s'exprime à cette table. La parole est très claire, tous les exemples qui viennent d'être donnés nous montrent qu'on s'associe à tout ce qui s'y fait et que l'on ramène avec soi cette souillure. Alors certains diront, eh bien je le fais sous ma propre responsabilité, l'Assemblée n'est pas concernée, c'est mon affaire, j'ai affaire avec le Seigneur, si je vais à tel endroit, après tout je ne sais pas très trop ce qui s'y pratique, mais je sais que ce sont de bons croyants qui ont un bon témoignage, leur culte semble convenable, mais on n'est pas allé voir comment cette table a été dressée, sur quel principe elle a été dressée, comme nous le disions ce matin. Et c'est cela qui compte, c'est cela l'essentiel, c'est la manière dont une table est dressée. Est-ce le Seigneur a dressé cette table? C'est la sienne. Si c'est l'homme qui l'a dressée suivant des principes humains, suivant des principes religieux, mais qui ne sont pas fondés entièrement sur l'enseignement de la parole que nous avons développé ce matin, ça n'est pas la table du Seigneur. Si quelqu'un pense participer à la table du Seigneur et puis ensuite aller à telle ou telle table en disant « j'ai la liberté de le faire », non seulement il se souille lui-même en ce sens qu'il adhère à tout ce qui s'y fait, d'ordre moral ou doctrinal, mais aussi, il ramène à soi, dans l'assemblée, là, à la table du Seigneur, toutes ses souillures, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est clair, c'est très net, c'est une communion que nous avons, une commune part à ce qui s'exprime à la table du Seigneur. Et comme nous sommes un seul corps, nous ne pouvons pas agir individuellement, séparément, nous agissons en tant que corps et nous exprimons collectivement toutes ces choses. C'est une part commune qui est indissociable de l'un à l'autre. Si bien que tout ce qui est exprimé à une table s'exprime à l'autre, lorsque c'est à la table du Seigneur, ça nous donne toute liberté les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a qu'une table du Seigneur, il n'y a qu'une communion qui s'exprime, quel que soit le nombre des assemblées locales ou des frères ou des sœurs en communion, il n'y a qu'une table du Seigneur, une seule expression de l'unité du corps du Christ, un seul repas pris en commun. Mais lorsque l'on va à une autre table pour amener ce qui s'y passe, alors on souille la table du Seigneur. Et c'est cela qui est très important et qui doit être compris parmi nous.
Peut-être faut-il préciser d'abord, de manière simpliste, naïve, que la table du Seigneur, ce n'est pas ce plateau de bois sur quatre pieds qui se trouve au milieu d'un local. C'est un emplacement spirituel, un emplacement moral, qui est mis moralement en rapport avec l'autel. C'est vrai que la table était une expression connue dans l'Ancien Testament, nous avons la preuve dans Ézéchiel et dans Malachie. Ceci étant dit, la sainteté, la table du Seigneur dont il vient d'être question, écarte de cette table quatre catégories d'hommes. Premièrement, les incrédules. Évidemment, ils n'ont pas la vie. Donc, il est impossible qu'il soit sur cet emplacement dressé, sur cet emplacement qui va avec la présence du Seigneur, sur un terrain de résurrection et de vie. Nous n'allons pas plus avant dans ces explications, nous les comprenons. Deuxièmement, la sainteté de la table du Seigneur, de cet emplacement moral et spirituel, de ce lieu de rassemblement, écarte ceux qui sont dans le mal moral. Il vient d'en être question. Il va y avoir des souillures morales contractées, mais plus encore, quelqu'un qui vit dans le péché, qui est dans le péché. Troisièmement, la sainteté de cet emplacement écarte ceux qui sont dans le mal doctrinal. Les fausses doctrines dont il est question, par exemple dans la deuxième épître aux Pierre et dans d'autres passages, qui entraînent toujours la corruption et la fornication. Et quatrièmement, c'est très pratique, la sainteté de cet emplacement écarte ceux qui, dans les différents groupements, tolèrent et le mal moral et le mal doctrinal. Ces vrais croyants sont conscients de ce mal doctrinal et de ce mal moral dans lequel ils se trouvent et qu'ils peuvent dénoncer, ils s'en rendent compte, mais ils le tolèrent. Ils sont indifférents à cela. Donc, cela aussi les écarte de cet emplacement qui est saint. Encore un mot, nous en parlions tout à l'heure dans la réunion. L'enseignement commence par 1 Corinthiens 10 et se poursuit par 1 Corinthiens 11. Mais il est bien vrai que la démarche individuelle d'un croyant, tout jeune croyant, nouveau-né dans le Seigneur, c'est d'abord d'être sollicité dans son cœur et ses affections par le mémorial, par ce qu'est son Sauveur et surtout ce qu'est son Seigneur. Dans ces deux passages, il y a d'une part le mot Christ, d'autre part le mot Seigneur. On a été parlé ce matin quelque peu du Seigneur, et notre frère Darby, dans l'Indépendance ecclésiastique, souligne bien que la Seigneurie concerne l'individu, et qu'il est question de l'Assemblée de Christ, de l'Assemblée de Dieu, mais jamais de l'Assemblée du Seigneur. Il est vrai que la présence du Seigneur est là, il est vrai que son autorité est liée à sa présence, il y a la table du Seigneur, nous en avons parlé ce matin, et la scène du Seigneur. Mais d'abord, le croyant est sollicité par le mémorial. Alors, cette voix se fait entendre à lui, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 11. Cela le saisit dans son cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une voix qui se fait entendre du ciel de quelqu'un qui n'est plus là. Et quand nous avons perdu quelqu'un qui nous est cher, et que par un moyen technique quelconque, nous entendons sa voix, nous sommes profondément saisis. Le Seigneur Jésus est mort, ressuscité, il est dans le ciel et du haut du ciel. Nous entendons par le moyen de l'apôtre à nouveau cette voix qui parle à notre cœur, et la parole atteint toujours notre conscience en passant par notre cœur. La conscience, parce que justement le Seigneur a des droits, et il y a d'abord lieu de s'examiner soi-même. Il y a un jugement de soi-même qui ne se fait pas à 10h moins le quart, le dimanche matin, ou le samedi soir, mais qui se fait d'une manière continue, pourquoi et comment, par la parole, par le Saint-Esprit opérant en nous. Là aussi, nous allons rapidement. Donc, conscient de ce que nous sommes personnellement vis-à-vis de celui qui a des droits sur nous, le Seigneur, nous pensons au mémorial. Et après, nous arrivons à la table du Seigneur et à ce qui vient d'être rappelé.
La question peut se poser donc sur le cœur de nos jeunes. Quelle est la différence entre la table du Seigneur et la scène du Seigneur ? Nous leur disons, il s'agit fondamentalement de la même chose, mais ce sont deux aspects différents, pratiques d'une même vérité, la vérité divine. Ces choses sont liées à la mort et à la résurrection de Christ, à sa glorification et à sa séance à la droite de Dieu. Après avoir été élevé par Dieu même, ressuscité par la gloire du Père, il a été donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée qui est son corps. Mais il a été mort. Et il laisse maintenant, pour le temps de son absence, un souvenir, un mémorial, pour perpétuer, dans le monde qu'il a oublié, qu'il a rejeté, le souvenir de ce qu'il a fait. Il l'a fait d'une manière touchante puisqu'il a réuni ses disciples une dernière fois la nuit même où il a été livré. Il a fait deux choses. La première, il a pour une dernière fois avec ses chers disciples mangé la Pâque. Il avait fort désiré de le faire. Et à la fin du souper, il a institué pour le temps de son absence le mémorial, le souvenir de sa mort. La chose merveilleuse avec la parole, c'est qu'elle s'explique par elle-même. Nous allons lire en Jérémie 16 la signification du souvenir, du mémorial, en l'appliquant à Christ lui-même. Jérémie 16, le verset 7, « On ne rompra pas, c'est la page 534, on ne rompra pas pour eux le pain dans le deuil en consolation, au sujet d'un mort et on ne leur donnera pas à boire la coupe des consolations pour leur père ou pour leur mère. La scène du Seigneur, elle est mentionnée, à ma connaissance, la seule fois au verset 20 du chapitre 11. Ce n'est pas la scène dominicale. Le repas de la scène est donc pris naturellement le premier jour de la semaine, au jour du Seigneur. Acte 20 nous le confirme d'ailleurs. Nous avons ici le mémorial de la mort du Seigneur Jésus. C'est un appel aux affections les plus profondes, les plus intimes du cœur, à se souvenir de Christ. Nous revenons, pour employer l'expression du Jourdain, le dernier obstacle qui s'opposait à ce que le peuple d'Israël entre dans le pays de la promesse, nous revenons au bord du fleuve de la mort de Christ. On y voit les eaux du jugement et de la mort, et il y a au fond des pierres qui étaient mises en témoignage. On s'arrête sur le bord du fleuve de la mort pour se considérer ce que Christ a fait, ce qu'il a supporté pour nous, pour moi. Et là, on se souvient de lui d'une manière qui réponde à sa pensée. C'est le mémorial. Il n'y a qu'une seule condition qui nous est donnée en 1 Corinthiens 11 pour participer à ce mémorial. C'est que nous soyons d'abord dans l'état chrétien, qu'on ait la vie de Dieu, l'incrédule n'y a aucune part, et que le Saint-Esprit ait scellé l'âme pour le jour de la rédemption. Mais que pratiquement, dans notre marche, dans nos pensées, nous soyons dans le jugement de nous-mêmes séparés, non plus du péché qui est en nous, mais que ce péché ne se repose pas sur notre conscience, que nous soyons dans notre marche, dans nos pensées, saints, à la fois dans la doctrine et dans la marche morale. Notre frère a rappelé tout à l'heure qu'il y a deux dangers, le mal doctrinal et le mal moral. Remarquablement, Paul, en 1 Corinthiens 5 et en Galates 3, exprime sous l'expression du levain le fait que le mal se propage. Un peu de levain peut faire lever la pâte tout entière, mal moral, mal doctrinal. C'est la condition qui est donnée ici. Nous ne sommes encore que péchés en nous-mêmes, et le péché ne pèsera pas sur notre conscience si nous marchons dans le jugement de nous-mêmes. L'enseignement donc de la scène est en rapport avec le souvenir et le mémorial de la mort de Christ, et c'est un appel individuel au jugement de soi-même et à la marche dans un chemin de justice pratique, de sainteté. Si nous participons à la scène du Seigneur sans exercer ce jugement habituel de nous-mêmes pendant les 7 jours de la semaine, le temps que durait en passant le sacrifice des pains sans levain, eh bien nous risquons d'être, de la part du Seigneur, considérés comme ceux qui mangent et qui boivent indignement, comme portant un jugement sur nous-mêmes, ne distinguant pas le corps. L'autre côté, c'est celui de la table. Dans l'ordre des choses présentées par l'apôtre, la table vient avant la scène. Habituellement, dans notre vie chrétienne, nous avons tous fait l'expérience. Nous avons d'abord conscience que Christ, dans ce qu'il a fait, appliqué à l'âme, produit des sentiments de reconnaissance qui nous poussent à nous souvenir de lui. Mais lorsque nous participons donc à la scène du Seigneur, naturellement nous avons part à la table du Seigneur. La table, ce n'est pas le meuble. C'est un lieu où on prend un repas en commun. On mange une nourriture commune. On a quelque chose de commun. C'est la communion. Cette table, clairement, nous l'avons encore l'établir par l'Ancien Testament, est toujours en relation avec l'autel. Ézéchiel 41 et Malachie 1. Lisons les passages que notre frère a cités tout de suite. Ézéchiel 41, c'est aussi clair que possible, verset 22. L'autel de bois était haut de 3 coudées. Page 605. Il me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Ézéchiel 44, 16. Eux s'approcheront de ma table pour faire mon service et ils feront l'acquis de la charge que je leur confie. Donc en fait, la table et l'autel, c'est la même chose. Rappelez-vous que l'autel est ici l'autel d'airain qui était à l'entrée du tabernacle ou à l'entrée de la maison. C'est là où nous avons le symbole de la mort de Christ et de la croix. Christ qui s'offre lui-même sur l'autel de la croix. Malachie 1. C'est en rapport avec les sacrifices. Vous méprisez mon nom, verset 7. Vous présentez sur mon autel du pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Table et autel sont donc intimement liés. On peut dire que la proposition est pratiquement réciproque dans l'Ancien Testament. Pourquoi la chose est-elle importante? Parce que la table est donc en rapport avec l'autel qui est pour nous le symbole de la croix et de Christ qui s'offre sur la croix. Lorsque, à la table du Seigneur, nous prenons la scène du Seigneur, En pensée, spirituellement, nous sommes identifiés avec Christ dans sa mort. Nous revenons à un Christ mort et nous sommes maintenant liés à un Christ glorifié. C'est mon Seigneur qui est dans le ciel glorifié, tête du corps, chef du corps de l'Assemblée. Il prend cette position et cette prééminence comme premier-né d'entre les morts afin qu'en toute chose il tienne lui la première place. À la table. En prenant part à la table du Seigneur, en rapport avec l'autel et au sacrifice de Christ, nous sommes en communion les uns avec les autres, et en même temps, il y a identification. Nos frères ont cité ces deux exemples pris par l'apôtre, d'abord du sacrifice de prospérité, et ensuite de la table des démons, auquel, d'une manière folle, les Corinthiens osaient participer. Une idole n'est rien, c'est un morceau de bois, d'airain, de fer. Derrière l'idole, qu'y a-t-il ? Les démons. Lorsqu'on entre dans un temple d'idole, lorsque les Corinthiens mangeaient d'une viande qui avait été sacrifiée aux idoles, la viande elle-même n'était pas changée, ils ne seraient pas empoisonnés pour autant, mais ils étaient en rapport avec l'autel, avec la table, et derrière la table, il y a Satan et la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Rien de moins. On peut d'ailleurs transcrire, sans sortir du domaine de l'Écriture, qu'il y a des enseignements de démons dans l'église professante lorsque on s'abstient de manger des viandes et lorsqu'on interdit aux prêtres de se marier. Mais c'est un peu en dehors du sujet. Il y a donc actuellement d'une manière formelle le fait de la communion qui est établie et du fait que non seulement il y a la responsabilité individuelle à participer à la scène, mais qu'en étant à la table du Seigneur, on est en communion avec l'autel, avec le sacrifice et les uns avec les autres. Il y a un seul pain, nous participons tous à un seul et même pain, et nous sommes membres d'un même corps. Les conséquences sont évidentes. Prendre la scène n'est pas seulement un côté de responsabilité individuelle. Je m'engage à l'égard de ceux avec lesquels j'aurai le pain, et j'engage ceux-là même avec ceux avec lesquels j'ai été auparavant en communion. Parce qu'il y a solidarité. Il est difficile de prendre des termes pour essayer de faire passer le message à nos chers jeunes. J'espère qu'ils auront compris un peu plus la pensée et la différence entre la scène et la table.
Cette nécessité de se juger soi-même nous permet de comprendre que il est souhaitable que quelqu'un qui est reçu à la table du Seigneur ait compris quelque chose de l'affranchissement. Qu'est-ce que c'est que l'affranchissement ? C'est de comprendre d'où viennent les actes mauvais que nous pouvons commettre. Mauvaises paroles, mauvaises pensées, mauvais actes. Quelle en est la source ? On ne se contente pas de condamner les actes, mais on réalise d'où ils proviennent. Le jugement de soi-même, ce n'est pas seulement le jugement des actes commis, mais c'est le souvenir de la source qui est à l'origine de ces actes. Donc, comprenons bien, nous ne recevons par exemple pas des enfants à la table du Seigneur. L'enfant ne se connaît pas lui-même. Il sait reconnaître ce qu'est une désobéissance, un mensonge, des actes commis, mais d'où viennent ces actes ? Quelle en est la source ? Il est donc souhaitable que, pour ne pas être en piège à quelqu'un que l'on reçoit à la table du Seigneur, ne pas lui être une occasion de chute, et nous savons que Satan, qui est un ennemi lâche, aussi bien que rusé, s'attaque aux plus faibles, et par conséquent, ce serait un piège tendu à une personne faible spirituellement et n'ayant pas du tout réalisé ce qu'est l'affranchissement. Disons pas qu'il faut atteindre un certain niveau, le Seigneur nous garde ça, mais ce serait un piège tendu à une personne qui n'aurait pas compris du tout ce qu'est l'affranchissement que de la recevoir à la table du Seigneur. Et un autre point important aussi, c'est que finalement, on ne reçoit pas en fonction d'une connaissance, d'un certain niveau acquis, comme cela se fait dans les systèmes où on arrive après une certaine éducation religieuse, un enseignement reçu pendant 2 ou 3 ans, alors un catéchisme, mettons, pour l'appeler par son nom, dans un état de connaissance qui permet alors de recevoir
quelqu'un lui donner, comme on dit, la première communion. Et il ne s'agit pas tant de connaissance que de soumission à l'Écriture. Quelqu'un peut être ignorant, pas avoir compris même la pleine portée de la scène. Les passages qui nous occupent, en particulier en chapitre 10, ne sont pas nécessairement compris, sont loin d'être compris par tous les frères et sœurs en communion. Mais ce qui compte, c'est une soumission à la parole de Dieu. Et un test, quelquefois, c'est une période d'attente qui manifeste si la personne a un esprit humble et s'attend vraiment au Seigneur. Et cette soumission est une attitude convenable en présence de la parole. La parole n'est pas comprise totalement, mais à partir du moment où un passage est cité, on s'y soumet. Par conséquent, une condition souhaitable, nous dirions presque indispensable pour qu'une personne soit reçue à la table du Seigneur, c'est la soumission à la parole de Dieu, qui est l'autorité au milieu des croyants, qui est la règle d'or dans l'assemblée. La parole de Dieu, on est soumis à la parole, on ne comprend pas tout, mais on l'accepte parce que c'est la parole du Seigneur.
On est frappé de constater dans ces passages l'accent donc qui est mis sur la communion. Peut-être est-il utile de préciser qu'elle revêt deux aspects. Premièrement, la communion du croyant avec son Dieu, avec le Seigneur, c'est-à-dire la jouissance personnelle des relations filiales, vitales et indestructibles dans lesquelles la grâce de Dieu l'a introduit moyennant la conversion, la nouvelle naissance. Et il y a la communion que nous pourrions qualifier d'horizontale, celle qui est la part des rachetés entre eux. Et nous sommes appelés à réaliser, comme croyants, la communion les uns avec les autres. Et comme nous l'avons dit ce matin, le niveau le plus élevé de cette communion entre croyants est celle qui est réalisée à la table du Seigneur. La table est l'expression même de la communion. Et comme on l'a abondamment énoncé cet après-midi, en participant à une table, nous participons à tout ce qui s'y rattache, à tout ce que comporte le terrain spirituel sur lequel elle est réalisée et la table autour de laquelle se rassemblent des croyants. Pour faciliter la compréhension, pensons avec sollicitude et affection à l'abondante jeunesse qui est heureusement présente, nous allons citer quelques exemples. Un croyant participe à une table de croyants où la scène est célébrée, mais où le ministère dans ce rassemblement de croyants est établi par l'homme. Il y a des pasteurs, il y a des responsables. La scène est rendue, et si nous rompons le pain là, nous exprimons une communion avec cet établissement du ministère établi par l'homme, ce qui est donc en désaccord avec l'enseignement de l'Écriture. Si la fraction du pain est rendue dans un milieu chrétien où l'action publique de la femme est réalisée, nous savons bien quels sont les enseignements sans équivoque de l'Écriture à cet égard, à savoir que la femme n'a pas reçu le ministère public et doit garder le silence dans l'assemblée. En rompant le pain dans un milieu qui tolère cette pratique, automatiquement, nous nous souscrivons et nous nous déclarons en communion avec une manière de faire dans un rassemblement qui est en désaccord avec la parole. Si dans un milieu, par exemple, de croyants rompant le pain, le mal moral est toléré, étant laissé à la responsabilité individuelle des croyants appelés à le juger, mais avec la pensée que ce n'est pas du ressort du rassemblement. Dans ce cas-là, la souillure est apportée à la table, à cette table-là, et en participant à cette table, nous établissons un lien de communion avec un mal qui est toléré. Si, par exemple, la scène est appelée, est donnée, est célébrée, et l'on appelle, l'on convie chacun un convenant, et l'un de nos devanciers n'a pas craint de qualifier de monstrueux la pensée qui serait de qualifier de table des démons des tables où se rassemblent des croyants, même si des erreurs doctrinales y sont tolérées. Ce sont des tables chrétiennes, et nous n'avons aucun droit, si la grâce de Dieu est accordée à des croyants, de percevoir ces enseignements divins. Quant à la table du Seigneur et les droits du Seigneur, les droits de sa seigneurie dans sa maison et à sa table, nous le répétons, nous n'avons aucun droit et aucun motif d'être animés d'un sentiment de jugement ou de supériorité. Le privilège et le devoir d'un racheté qui a compris les pensées de Dieu que la parole établit est, si l'occasion l'en est présentée, d'amener une âme qui serait étrangère à de telles vérités à les comprendre à son tour. Il y a donc, nous le répétons car cela nous paraît de première importance, de saisir la différence qu'il y a entre la réalité et la perfection de l'unité du corps de Christ dont nous proclamons la réalité à la table du Seigneur et la réalisation de la communion à la table du Seigneur. S'il y a confusion entre ces deux choses, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous ne pouvons pas rompre le pain avec tout croyant et à toute table chrétienne si ces choses sont confondues. Quant à la scène du Seigneur, nous aimerions rappeler quatre aspects dont quatre autres ont été évoqués déjà ce matin en fin de réunion. La scène du Seigneur qui est indissolublement lié dans la pensée de Dieu à la table du Seigneur en est, comme on vient de l'entendre, néanmoins distincte. La scène du Seigneur est l'évocation de sa mort, c'est le souvenir ou le mémorial de son œuvre. Elle revêt quatre aspects selon les versets que nous avons lus au chapitre 11. C'est le souvenir premièrement du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le souvenir de la victime, c'est le souvenir de la personne du Seigneur. C'est aussi, secondement, le souvenir de son œuvre. Nous proclamons, nous commémorons la mort du Seigneur. Il ne s'agit pas du Seigneur dans sa vie. Il ne s'agit pas du Seigneur dans sa glorification. Il s'agit à la scène de la mort du Seigneur. Troisièmement, c'est une proclamation. Vous annoncez. Nous proclamons les rachetés réunis à la table du Seigneur le premier jour de la semaine lors de la fraction du pain, proclament, annoncent l'œuvre de Christ, la mort du Seigneur. Nous pourrions dire, le monde ne le voit pas, le monde demeure insensible et indifférent à une telle proclamation, il n'en demeure pas moins qu'au cours des semaines, des années, chaque premier jour de la semaine, sur la surface de cette terre et à la face de ce monde, la mort du Seigneur est annoncé. Et en quatrième lieu, c'est le rappel de son prochain retour, jusqu'à ce que je vienne. Chaque fois que nous rompons le pain, et nous sommes appelés à le faire dans l'émotion de nos cœurs et l'attachement de nos affections au Seigneur, chaque dimanche, avec la même émotion que si c'était la première fois, mais aussi comme si ce devait être la dernière fois. Mais nous le faisons dans l'attente du retour du Seigneur et en rompant le pain, nous annonçons qu'il va revenir. Quatre aspects liés donc à la scène du Seigneur. C'est l'homologue en quelque sorte de la Pâque. Mais la Pâque célébrée par le peuple terrestre de Dieu, Israël, instituée en Exode 12, célébrée à plusieurs reprises, mentionnée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, la Pâque parlait par anticipation d'une œuvre future. Alors que la scène du Seigneur est le rappel d'une œuvre accomplie. Une autre question à laquelle il est peut-être utile de répondre. On mentionne fréquemment cette expression de demander sa place ou de recevoir de la part de l'Assemblée sa place à la table du Seigneur. Pourquoi donc faut-il demander ou exprimer le désir de rompre le pain à la table du Seigneur? Précisément à cause du fait que l'Assemblée est responsable des liens qu'elle crée et de la communion qu'elle établit à la table qui est celle du Seigneur. Elle est donc consciente, responsable, que les droits du Seigneur doivent être respectés. Elle doit donc s'assurer, l'Assemblée, en liant au nom du Seigneur, selon l'expression de Matthieu 18:18, elle lie au nom du Seigneur, elle s'engage au saint nom du Seigneur qui est invoqué dans cet acte où la communion est liée avec une âme à la table du Seigneur, qu'elle le fait en bonne conscience, cette âme-là étant, comme nous l'avons entendu, exempte de péché moral et doctrinal, et qu'elle souscrit le cœur, ayant la vie de Dieu, elle souscrit le cœur au caractère d'un témoignage collectif. C'est l'Assemblée qui lie. Aucun racheté du Seigneur n'est habilité pour décider de sa place à la table du Seigneur. Nous connaissons bien ce passage de Matthieu 18:18, tout ce que vous lirez et tout ce que vous délirez sera lié ou délié dans le ciel. Remarquons qu'il n'est pas dit dans ce passage, lorsque l'Assemblée lira à bon escient, la chose sera ratifiée ou inscrite dans le ciel, mais tout ce que vous lirez. C'est-à-dire que la décision prise par l'Assemblée, car ce ne sont pas les frères qui admettent à la table du Seigneur, mais l'Assemblée, frères et sœurs en communion à la table du Seigneur, qui prononce cette admission au nom du Seigneur, l'Assemblée qui lit est consciente qu'invoquant le nom du Seigneur, cette décision est ratifiée dans le ciel. D'où l'exercice que requiert une telle décision de la part de l'Assemblée.
Cela montre, qui vient d'être dit, l'importance de la réunion d'administration. L'Assemblée administre, c'est-à-dire qu'elle gère ce qui concerne sa vie d'Assemblée, mais aussi et surtout, et avant tout, elle gère l'autorité du Seigneur qui lui est déléguée. On parle quelquefois, par souci de commodité d'expression, de l'autorité de l'Assemblée. Peut-être est-il plus exact de dire, et les frères le confirment, l'Assemblée gère l'autorité du Seigneur. Et nous avons dit tout à l'heure, ou ce matin, à la fois, il y avait la présence du Seigneur, l'autorité du Seigneur, la table du Seigneur, avec sur la table, la scène du Seigneur. Et cette autorité du Seigneur, c'est donc ce qui vient d'être rappelé, et géré, administré par l'Assemblée qui reçoit. On a bien souligné il y a plus de 100 ans que la compétence de l'Assemblée dans ces choses n'impliquait pas son infaillibilité. Cela aussi vient d'être répété. Ce n'est pas parce qu'une Assemblée locale dessine, lit et qu'elle est compétente pour le faire que pour autant cette décision est entaché et marqué par l'infaillibilité. On perd de vue, bien souvent, dans la vie des assemblées locales, l'importance centrale de la réunion d'administration, mal comprise et mal vécue. On pense bien souvent que c'est une réunion accessoire, une réunion secondaire. On voit surtout des frères qui restent. On sait qu'ils parlent de différentes choses, préparant ainsi ce qui va être ensuite la réunion d'assemblée pour décider. Mais on aura l'occasion peut-être dans d'autres lieux de parler de cette réunion et on en a eu l'occasion de le faire. Et c'est certainement un sujet important quant à l'existence de l'assemblée, mais aussi la vie de l'assemblée. Un mot sur ce que nous avons entendu, cette identification avec Christ à la table du Seigneur, simplement pour dire que cette notion d'identification avec Christ explique les deux expressions que nous avons dans 1 Corinthiens 10, qui ne sont pas toujours bien comprises, à savoir que la coupe est la communion du sang, et le pain est la communion du corps. Il y a sans doute dans ces deux expressions cette notion d'identification avec un Christ mort, son sang ayant coulé, avec un Christ mort, son corps, sans vie sur la croix. Encore un mot pour ce qui a été dit tout à l'heure à propos de l'affranchissement. C'est parce que, effectivement, ce n'est pas une question de compréhension, d'intelligence et de connaissance. Le salut. Le salut que nous acceptons lors de notre conversion, ce n'est pas un phénomène de notre intelligence, n'est-ce pas? Nous croyons, nous obéissons à Dieu, nous obéissons à la parole, à ce qu'elle nous dit de l'état de l'homme dans lequel nous sommes. C'est bien clair. Pour le salut dans son aspect présent, cet affranchissement qui est l'heureux état chrétien qui est dépeint dans la première partie du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il en est de même. Quand on voit un croyant désireux de comprendre cet état chrétien, de comprendre cet affranchissement, il fait des efforts pour se débarrasser de ce qu'il connaît dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, on peut lui dire, mais mon cher, tu n'y arriveras jamais. Si tu veux essayer de comprendre, si tu veux essayer de t'en sortir par tes propres efforts, tu n'y arriveras jamais. De la même manière que pour le salut, ce n'est pas par notre intelligence que nous pouvons le comprendre, nous devons l'accepter. De la même manière, pour l'affranchissement, pour la réalisation qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, ce n'est pas un phénomène de connaissance, ce n'est pas un phénomène d'intelligence, c'est une question de foi, c'est une question d'obéissance, c'est une question d'accepter tout simplement ce que la parole nous dit. Et quand une âme a accepté, eh bien, elle en a terminé avec ce qu'elle peut connaître de Romains 7, ce qu'elle peut exprimer. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Alors, ce croyant de Romains 7, il peut être désireux de se souvenir de l'amour du Seigneur. Il a des affections, des engagements, mais s'il est reçu à la table du Seigneur, il sera très malheureux, parce qu'il ne réalisera pas cet état chrétien qui a été rappelé, il ne réalisera pas non plus ce qu'est le sceau, pour son propre compte, il ne pourra pas jouir de cette pleine relation avec le Père, par l'esprit d'adoption, qui lui fait crier, « Abba, Père !» Il sera gêné à la table du Seigneur, et il gênera aussi les autres, ce sera un point, il sera mal à l'aise, parce que ce ne sera pas sa place. Et il y a peut-être des croyants qui souffrent à la table du Seigneur parce qu'ils n'ont pas réalisé ce qui vient d'être rappelé tout à l'heure par notre frère et qui est fondamental parce que c'est l'état chrétien, la pensée de l'esprit qui est en nous et qui est vie et paix. Que nous ne décourageons pas ceux qui seraient dans l'état de Romains 7 parce qu'il vient d'être dit en disant « mais c'est bien compliqué tout cela ». Non, nous ne nous décourageons pas. Acceptons tout simplement, sans effort, sans intelligence, sans un effet de l'intelligence et sans le désir de connaître, acceptons ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, nous serons heureux à la table du Seigneur. Ce sceau du Saint-Esprit, j'en termine, est le fait que Dieu met la marque de sa propriété sur ceux qui lui appartiennent. Nous sommes scellés parce que nous lui appartenons. Mais un croyant peut ne pas avoir conscience de ce sceau. Et il lui faut quelquefois longtemps pour réaliser ce qu'est ce sceau du Saint-Esprit pour lui-même, quoique Dieu l'ait placé. Il faut un certain temps pour qu'il réalise, qu'il accepte cet état chrétien et cet état d'affranchissement dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour le corps tout entier, quand le Seigneur Jésus vient, il rassemble tous ceux qui sont au bénéfice de son œuvre, qui sont justement sauvés par la grâce et par la foi, et qui sont scellés de l'Esprit, même ceux qui ne le savent pas. Même ceux qui ne le savent pas. Mais pour l'existence et la vie d'une assemblée locale, pour ce qui est l'expression de ce corps tout entier réalisé à la table du Seigneur et dans sa présence, eh bien c'est là qu'il est nécessaire que les croyants acceptent cet état chrétien, acceptent cet état d'affranchissement dont il a été question.
En rapport avec la seule table du Seigneur, où l'on pourrait parfois dire la table du Seigneur est partout, ça me fait plaisir d'aller une fois ici, d'aller une fois là. Est-ce qu'on n'a pas déjà dans l'Ancien Testament non seulement à cet égard quant au lieu, il n'y en avait pas deux, le lieu était toujours dit que l'Éternel ton Dieu choisira. Deutéronome 12 est instructif à cet égard. Dans ce seul chapitre, 6 fois, nous avons la mention de ce lieu est toujours le lieu, non pas où un enfant d'Israël aurait eu envie d'aller, ça lui aurait fait plaisir d'aller, il n'est pas dit cela. Un lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Ce lieu-là, tu prendras la peine de le chercher, et quand tu l'auras trouvé, c'est là que toujours tu te rendras pour offrir tes sacrifices. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là un enseignement adressé au peuple d'Israël qui a toute son importance pour nous chrétiens? Il y a un lieu, il y avait un lieu choisi par l'Éternel lui-même, comme il y a une table qui s'appelle, au jour du christianisme, la table du Seigneur, non pas des tables, plusieurs tables, mais la table du Seigneur. Et la table, cette expression, c'est pas une espèce d'émanation spirituelle, comme on entend dire quelquefois, c'est un lieu positivement établi par le Seigneur. C'est la table du Seigneur, et c'est là que les croyants, obéissant à la parole de Dieu, ont à se réunir. Est-ce qu'il n'y a pas un enseignement pour nous important et qui peut éclairer peut-être quelques âmes pieuses, par ailleurs, hésitantes? Est-ce qu'il n'y a pas là, en Deutéronome 12, dans la mention de ce lieu, est toujours choisi par l'Éternel, ton Dieu, n'a-t-il pas un enseignement pour nous chrétiens?
Dans le livre du Deutéronome, en fait, on trouve 8 occasions successives où Israël, l'Israélite pieux, devait monter. Ce lieu était choisi par Dieu, c'était Jérusalem. Il y avait 3 fêtes particulières dans l'histoire de l'année juive, où un juif pieux devait monter à Jérusalem, à la Pâque, à la fête des tabernacles et à la Pentecôte. Tout s'y trouvait à Jérusalem. On y avait la présence de Dieu, on y présentait les offrandes, on y avait la communion et la joie, on y apportait des dîmes, il y avait la lecture de la parole, il y avait l'exercice du culte, il y avait le souvenir de ce que Christ a fait comme le vrai serviteur hébreu, qui se sentait bien dans la maison de son maître et qui a tout donné pour avoir celle que Dieu lui donne comme son épouse. Alors pour nous, où est ce lieu? Chers jeunes, chers frères et sœurs, où est la table du Seigneur? Elle est en Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 18, 19 et 20, il y a 3 choses, 3 promesses. Il y a l'autorité déléguée par le Seigneur aux 2 ou 3 réunis en assemblée comme corps. Il y a la puissance et la valeur de la prière collective de l'Assemblée, et il y a l'assurance et la promesse, et le Seigneur est fidèle, que là où 2 ou 3 se réclameraient de lui, de son nom, se réuniraient malgré leur faiblesse autour de lui comme seul centre, reconnaissant son autorité sur mon âme, reconnaissant sa position comme chef et tête du corps de l'Assemblée glorifié dans le ciel. Il y aura là la présence personnelle du Seigneur, le cantique 8 du supplément par lequel nous avons commencé notre étude cet après-midi. Voilà où est la table du Seigneur. Cette table du Seigneur, on ne peut pas y avoir participation, on ne peut pas se souvenir de la scène du Seigneur, d'y participer individuellement. C'est un acte collectif qui engage d'un côté la responsabilité individuelle de chacun de celui qui y prend part, qui appelle des exercices moraux permanents et qui en même temps se réalise collectivement dans le partage ensemble du sacrifice de Christ mort sur la croix pour nous.
Une autre manière peut-être de dire la même chose. Nous sommes un croyant, nous sommes chez nous, tout seuls, nous prenons un pain, nous prenons une coupe, et nous disons, nous allons nous souvenir du Seigneur. Et nous disons donc, ceci est le corps. Ceci est la coupe. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que celui seul qui peut donner la vraie valeur du pain et de la coupe, c'est le Seigneur, s'il est là. Et il est là si nous sommes assemblés en son nom. dans 1 Corinthiens 12, qui c'est qui dit, du haut du ciel, ceci est mon corps, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, c'est pas un croyant tout seul. Ce n'est même pas deux croyants. Ce n'est même pas trois croyants. Non. Ce n'est pas un groupe qui dit, voilà, nous décidons que ceci est le corps, que ceci est la coupe. C'est le Seigneur qui donne la valeur à ce pain profane, qui donne la valeur à cette coupe. Et pour qu'il puisse le dire, eh bien, il faut qu'il soit là. Et il est là, si ces deux ou trois croyants sont assemblés à son nom, au lieu de se trouver dans ce lieu pour un autre motif, comme nous l'avons évoqué ce matin. C'est lui qui dit, parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui donne la scène du Seigneur.
Alors pratiquement, comment les choses vont-elles se passer quand un nouveau rassemblement a lieu? Eh bien, les frères sont exercés, les croyants qui se réunissent dans une localité auront le souci du fait qu'il y a interdépendance des assemblées locales de réaliser la communion avec les assemblées les plus proches. Et ainsi, la table peut être dressée sur le terrain de l'unité du corps de Christ, ces deux ou trois nouvellement réunis ayant le sentiment de l'approbation du Seigneur. Et ceci est extrêmement important. S'il n'y avait pas de liberté à ce sujet de la part des assemblées locales voisines constituées, ces frères devraient attendre avant de dresser la table du Seigneur. Car c'est bien la table du Saint et du véritable expression que nous avons dans l'Apocalypse au chapitre 3 lorsque le Seigneur se présente à l'assemblée de Philadelphie. Le saint, séparé de tout mal moral, le véritable, séparé de tout mal doctrinal. Et ainsi, il y a une heureuse liberté quant à la communion pratique qui peut s'exprimer avec cette nouvelle assemblée locale. Disons aussi qu'une expression de l'unité du corps de Christ pratique, ce sont les lettres de recommandation, dont trois passages se trouvent dans l'Écriture, d'une manière extrêmement belle. En particulier, il y a un modèle de lettre de recommandation pour une sœur dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains. La sœur Phoebé, qui était dans l'assemblée de Sancré, est envoyée à Rome, porteuse probablement de la lettre que l'apôtre avait dictée, et nous voyons comment l'apôtre la recommande au sein de Rome en disant en particulier qu'elle était la servante de l'assemblée. Ceci est extrêmement beau et on voit combien le rôle de la femme est précieux dans l'Écriture. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de ministère public qu'elle n'a pas un service des plus bénis, des plus précieux, accompli dans l'ombre pour la gloire de son Seigneur. Un autre exercice extrêmement important est celui des frères qui sont chargés d'instruire une demande d'admission à la table du Seigneur. Ils doivent se préoccuper de l'état de l'âme qui a demandé sa place, comme nous l'avons déjà souligné, et ceci est important aussi pour montrer la responsabilité de celui qui s'engage à demander sa place à la table du Seigneur. Il y a aussi ce côté-là. Eh bien, les frères doivent s'enquérir de la possession de la vie divine, donc la vivification, mais aussi la possession du Saint-Esprit qui a scellé l'âme. Donc c'est l'état authentique chrétien qui doit être perçu. Et ceci peut se percevoir non seulement par les paroles, mais aussi pour ce qui concerne les jeunes frères en particulier, par la prière qu'ils peuvent énoncer à côté de leurs frères qui viennent les visiter ou qui les ont reçus chez eux. Il n'y a pas lieu de se précipiter quand une demande est formulée. Il est important que les frères qui instruisent la demande soient libres avant de la présenter à l'assemblée. Et ceci est extrêmement important aussi pour que, progressivement, on ait le sentiment d'être approuvé du Seigneur dans tout ce qui est fait. C'est pourquoi Ils doivent tenir compte de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, et s'il y a une séparation morale du mal, et si l'âme est saine par rapport aux relations qu'elle pouvait avoir avant de formuler sa demande. Autant pour le salut d'une âme, nous devons insister, nous devons supplier, nous devons intercéder. Autant pour une admission à la table du Seigneur, aucune pression de quelque ordre que ce soit ne devrait être faite. Et en particulier le poids des relations naturelles qui jouent bien souvent, hélas, et qui portent les frères à faire des admissions précipitées. L'âme qui a formulé sa demande doit être en paix devant le Seigneur. Elle l'a faite par amour pour le Seigneur. Eh bien, ne s'inquiète nullement du temps d'attente qui correspond à un exercice des frères et des sœurs quand elles sont informées. Elles doivent l'être à un moment donné. Et avant de prononcer une décision d'assemblée, il est important aussi que les sœurs participent à cet exercice. Et alors, nous pourrons recevoir, selon l'expression de Romains 15, une âme à la gloire du Seigneur. Priant pour elle, la portant devant le Seigneur dans nos intercessions, et c'est un moment très précieux pour l'âme, et disons quelquefois qu'un temps d'attente à la suite d'un manque de liberté de tel ou tel frère, de telle ou telle sœur, a été très bénéfique pour l'âme. Elle a fait des progrès, elle s'est appuyée sur le Seigneur, elle a senti ce manque de liberté, et c'est là que peut-être elle entre d'une façon plus précise dans la compréhension de cet affranchissement en Christ dont nous avons parlé, réalisant qu'il n'y a rien de bon en elle. Ce que d'ailleurs nous devons aussi lui montrer, et nous-mêmes pratiquement, n'ayant aucune confiance en la chair, n'ayant aucune confiance en l'homme, mais nous appuyant nous-mêmes sur Dieu. Alors nous voyons une expression dans le livre de Néhémie qui est tout à fait instructive quant à la demande d'admission, chose qu'un frère de notre assemblée avait sur le cœur bien souvent quand il s'agissait d'une demande d'admission. Il est dit que les portes de Jérusalem, au chapitre 7, verset 3, ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud et qu'on devait fermer les battants des portes pendant qu'ils étaient là, et mettre les barres et qu'on devait placer les gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun à son poste et chacun devant sa maison. Voyons là le rôle des portiers. Et les frères accomplissent dans une mesure ce rôle lorsqu'ils instruisent une demande d'admission. Et il faut qu'il y ait une heureuse liberté avant que l'assemblée puisse se réunir pour lier sur la terre ce qui sera lié dans le ciel. Et ceci doit retenir toute notre attention. Un autre point aussi quant à la sainteté pratique dont nous avons parlé cet après-midi, nous avons un exemple qui est donné dans le livre du prophète Agée au chapitre 2, où nous voyons que d'une part, ce qui est saint n'ôte pas la souillure, et d'autre part, dans le deuxième exemple du prophète, la souillure profane toujours ce qui est saint. Donc, nous voyons que les sacrificateurs qui connaissaient la loi de Dieu répondent avec intelligence. Dans un cas, ils disent non, elle est impure, et dans l'autre cas, ils disent ce qui a touché la chair sainte, quelqu'un, un homme qui porte de la chair sainte dans le pan de sa robe et qui touche avec le pan de sa robe du pain ou quelques mets ou du vin ou de l'huile ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché sera-t-il sanctifié? Les sacrificateurs répondent unanimement non. Donc là aussi il y a un enseignement pour nous quant à la sainteté pratique, et nous devons veiller à cette sainteté vis-à-vis de la table du Seigneur, car c'est la table du Seigneur, comme on l'a déjà rappelé. Ce n'est pas celle des frères, ce n'est pas la table d'une dénomination, c'est la table du Seigneur. Et à ce titre, le terrain est extrêmement large pour accueillir tout croyant authentique qui possède la vie et qui a le Saint-Esprit. D'où qu'il vienne, d'un système faisant partie des grands systèmes de la chrétienté ou d'une dénomination chrétienne, il est arrivé que Des croyants exercés quant au vrai terrain du rassemblement selon l'Écriture ont quitté ces systèmes et se sont engagés en acceptant l'opprobre qui en découlait dans le témoignage du Seigneur. Et c'est ce témoignage du Seigneur que nous avons le privilège de proclamer encore aujourd'hui par la pure grâce du Seigneur. C'est un très grand privilège face à toutes les tables chrétiennes que l'homme a pu établir au sein de la chrétienté. Et lorsque nous jouissons de ces parts, de cette part bénie d'une communion intime avec le Seigneur en nous identifiant à lui-même, à son sang, à son corps, il n'y a pas de moment plus précieux et plus solennel sur la terre que nous ayons à goûter dans le tréfonds de notre cœur. Eh bien, que la grâce nous soit faite de réaliser qu'il y a pour nos affections la scène du Seigneur et pour notre intelligence spirituelle la table du Seigneur. Où les opinions des hommes sont bannies, nous nous appuyons simplement sur ce que la parole nous dit pour réaliser un tel état d'âme.
Est-il superflu de rappeler la structure de ce passage que nos frères ici a cité tout à l'heure, de ce passage fondamental quant au rassemblement des enfants de Dieu, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Un frère a exprimé cette pensée concernant la structure remarquablement divine de ce passage. Du reste, c'est le sujet d'une méditation qui a paru il y a longtemps dans le Message évangélique. Notre frère écrit ceci, « Là, lieu divin, où deux ou trois témoignages divins sont assemblés, communion divine, en mon nom, autorité divine, je, personne divine, suis là, présence divine, au milieu de centre divin. Nous avons là cette vérité divine constituant ce passage qui peut nous paraître élémentaire, qui n'en est pas moins fondamental quant au rassemblement des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus et autour du Seigneur Jésus. Et l'auteur de la méditation termine en disant, en exprimant ce souhait, Dieu veuille qu'il n'y ait rien d'humain, de charnel qui se manifeste sur un tel terrain. Nous savons combien, hélas, combien de choses humaines, de sentiments charnels se manifestent sur un tel terrain. Mais le vœu de notre frère est celui-ci. Dieu veuille nous aider à ce qu'il y ait de moins en moins de sentiments humains, charnels, sur un tel terrain où, d'après les enseignements du Seigneur Jésus lui-même, tout est divin.
Dans ce paragraphe qui est devant nous, nous avons trouvé deux titres de la personne de Christ. Christ et le Seigneur. On a déjà souligné ces deux côtés. Le premier, nous l'avons vu au verset 14 et 15, est en relation avec la communion. Communion du sang du Christ, communion du corps du Christ. Et à cela se lit la table, qui est aussi l'expression de la communion. Nous l'avons abondamment mentionné déjà dans cette journée. Mais la table est appelée la table du Seigneur. Et un frère d'autrefois l'a très clairement, le Seigneur est un titre d'autorité. Ça n'a pas à faire avec la communion, à proprement parler, c'est la communion du Christ. Mais la table à laquelle s'exprime cette communion, c'est là où se réalise l'autorité du Seigneur. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, elle ne peut pas être appelée la table du Seigneur. Et cela rejoint de près ce qui vient de nous être rappelé concernant l'enseignement de Matthieu 18. Mais alors, justement, nous revenons sur cette question de la réception d'une âme à la table du Seigneur. Qui peut effectivement recevoir
c'est de l'autorité du Seigneur, de la compétence, on dirait, du Seigneur, qu'il s'agit. Mais nous avons déjà vu, et il faudra le rappeler, que en ce qui concerne l'administration présente sur la terre, le Seigneur a effectivement confié, délégué une responsabilité, une autorité à l'Assemblée locale, qui lie le corps tout entier. Qu'est-ce que donc recevoir à la table du Seigneur? Nous revenons là au tout début de la vie de l'Assemblée sur la terre. Que lisons-nous? Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Assemblée ceux qui devaient être sauvés. Il faisait partie du corps de Christ, et nous n'en doutons pas, il rompait le pain, ipso facto. Il n'y avait pas alors de précaution particulière. Nous voyons dans le livre des Actes et par la suite dans les Épîtres que bien des circonstances fâcheuses sont ensuite entrées dans l'Église et que il a été nécessaire de se séparer de telle ou telle personne. Et puis quand l'État est arrivé à un point qui est décrit en 2 Timothée 2, alors il est dit deux choses. D'une part, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et d'autre part, qu'il se retire de l'iniquité ou de l'injustice, quiconque prononce le nom du Seigneur. Voyons là de nouveau apparaître cette pensée de reconnaître cette autorité qui est la sienne dans un temps où les choses sont devenues très mélangées. Et nous souvenons justement de ce que écrivait un conducteur du siècle dernier, qui a déjà été cité plusieurs fois aujourd'hui, en disant « Au commencement, il n'y avait pas de telle réception. » Mais 2 Timothée 2 nous en fait maintenant l'obligation. Mais nous devons comprendre qu'il y a là quelque chose qui est un sujet en soi de deuil et d'humiliation pour nous. Nous devrions toujours réaliser cela. Combien c'est une chose douloureuse qu'il ne soit pas possible que dans le temps actuel, tous les croyants puissent se trouver spontanément dans un même lieu et participer ensemble à la table du Seigneur. Dans quelle mesure, bien-aimés, est-ce que nous réalisons cela? Cette humiliation qui a caractérisé le début du témoignage devrait nous caractériser maintenant, et nous le disons peut-être plus encore. Mais cela n'ôte pas, bien au contraire, la responsabilité qui est la nôtre précisément, d'administrer les choses dans l'assemblée, dans chaque assemblée locale, mais d'une manière qui lie effectivement le corps tout entier, d'une manière qui soit selon la parole et entièrement soumis à l'autorité du Seigneur. Alors nous trouvons justement en 2 Timothée 2 cette invitation, donc d'une part à se retirer de l'iniquité, qui s'adresse à toute âme individuellement, et nous comprenons que c'est une condition nécessaire pour pratiquement prendre place à la table du Seigneur. Toute âme née de nouveau, scellée du Saint-Esprit, a effectivement, comme on l'a écrit aussi depuis longtemps, en principe sa place là, parce que le seul titre c'est d'y participer, c'est être membre du corps de Christ. Mais encore faut-il qu'ils soient engagés dans ce chemin, qu'ils se retirent de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur, puisque c'est la table du Seigneur et que là son autorité doit être reconnue et effectivement acceptée. Et certains diront, mais il appartient à chacun de s'éprouver soi-même, et puis il jugera bien s'il est en mesure ou non de faire prendre la scène. Mais nous voyons que dans ce passage, il nous est dit aussi que nous sommes appelés à poursuivre la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est donc un acte collectif, et il y a là une responsabilité collective qui s'exerce selon les enseignements que nous trouvons justement en Matthieu 18. Mais nous devons toujours garder dans notre pensée ce fait que c'est le Seigneur qui ajoute à l'Assemblée et qui fait d'une âme par le Saint-Esprit, en scellant de l'Esprit, un membre du corps de Christ. C'est ce qui fait écrire au même conducteur dont je parlais tout à l'heure, ceci à peu près, au fond, sans nous arrêter sur les termes admission ou réception, nous ne recevons pas à proprement parler une âme, mais nous devons être exercés à reconnaître celle que le Seigneur a reçue.
Nous avons à considérer l'assemblée sous deux aspects distincts. D'une part, le prix que le Seigneur a payé pour l'acquérir. Il s'est livré lui-même pour acquérir cette perle de très grand prix. Il l'a nourrie, il l'a chérie. C'est ce que le Seigneur fait présentement. Et c'est certainement la conscience que nous avons de la valeur qu'a cette assemblée pour le cœur du Seigneur, du prix payé pour l'acquérir et de la sollicitude, l'amour dont il l'entoure présentement, qui dictera à nos affections l'appréciation que nous devons en avoir. Le second aspect, c'est la considération de la réalisation pratique de la marche de l'assemblée, c'est-à-dire l'aspect de la responsabilité. Et sous cet aspect-là, nous devons bien reconnaître, comme la parole nous le dit, qu'elle est marquée, cette marche, par des tâches, par des défaillances, par l'insuffisance, par la faiblesse, à laquelle nous contribuons tous. Et si réelle que soit la faiblesse du témoignage, nous y serons attachés dans la mesure où nous comprendrons le prix qu'il a pour le Seigneur. Nous avons parlé cet après-midi d'évoquer l'infaillibilité ou le fait que l'Assemblée n'est pas infaillible. Quant à sa marche, elle est parfaite quant à sa position en Christ devant Dieu. Mais quant à sa marche, elle n'est pas infaillible. Si elle était infaillible, elle serait la vérité. Or, il n'est pas dit dans l'Écriture que l'Assemblée est la vérité. La vérité, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. La parole est la vérité, Dieu est vérité, le Seigneur est la vérité. Mais l'Assemblée n'est pas la vérité, mais elle a le privilège d'en être la porteuse, et elle a le devoir et la mission de la maintenir et d'être dans ce monde, ce christianisme d'aujourd'hui qui n'est qu'un champ de ruines, d'être la colonne visible et réelle de la vérité. L'Assemblée qui prend une décision, par exemple, de recevoir à la table du Seigneur ou de prononcer douloureusement et dans l'humiliation une rupture de communion. Nous avons vu qu'une telle décision, quelle qu'en soit la nature, prise au nom du Seigneur, est enregistré et reconnu dans le ciel qui reconnaît le nom du Seigneur auquel une telle décision son assemblée a agi. Il en résulte une obligation de la part de chaque frère et sœur et de chaque assemblée qui n'est pas celle nécessairement où la décision a été prise de se soumettre implicitement à la décision prise, quelle que soit la nature de la décision. C'est là le terrain de l'unité du corps. C'est l'interdépendance des assemblées, et en dehors de cela, c'est l'autonomie des assemblées qui est la négation du terrain spirituel de l'unité du corps de Christ. Une décision prise dans l'assemblée ici à Valence doit être reconnue dans toutes les assemblées du monde entier. Mais comment conjuguer donc cette réalité-là avec l'autre aspect qu'une assemblée peut commettre une erreur dans une décision et que toutes les assemblées doivent s'y soumettre? Si tel devait être le cas, l'assemblée peut être rendue attentive, réaliser l'erreur commise, venir en arrière dans une profonde humiliation, revenir sur sa décision. Et à ce moment-là, les autres assemblées et tous les frères et sœurs en tout lieu reconnaîtront la nouvelle décision prise par ce rassemblement-là. En dehors de cela, le fait de s'élever contre une décision d'assemblée, quelle qu'elle soit, ou ne pas la reconnaître, est à l'origine, et a été tant de fois à l'origine, de troubles profonds, voire même de divisions au sein des rassemblements. En ce qui concerne encore la scène du Seigneur, quelques réflexions très brèves. Nous avons vu abondamment la question qui répond à la demande « Qui peut participer à la scène du Seigneur ?» Où peut-on participer à la scène du Seigneur? Nous l'avons vu également, c'est à la table du Seigneur et à la table du Seigneur seulement. Ainsi donc, comme on l'a déjà entendu, la scène du Seigneur ne saurait être portée à un croyant resté à la maison pour des raisons que le Seigneur reconnaît, qui se trouve à l'écart. La scène du Seigneur ne peut pas lui être portée à domicile. La scène du Seigneur ne peut pas être prise non plus par des croyants qui se trouvent occasionnellement ensemble un premier jour de la semaine où il n'y a pas de rassemblement et qui pourrait prendre librement la décision de procéder à la scène du Seigneur. Il n'y a pas la table du Seigneur et ces deux choses, nous l'avons vu également, sont indissolubles. Pourquoi la scène est-elle prise? Question qui, bien sûr, a priori paraît superflue, mais elle est prise par des croyants conscients du désir du Seigneur. Et s'ils y répondent, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'obéissance, ils le font parce que c'est le profond désir du Seigneur qu'il a exprimé lui-même en disant aux siens, instituant ce qui serait le mémorial de son œuvre après celle-ci, « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est donc une injonction. De telle manière que le croyant, l'enfant de Dieu, qui a compris ces choses, pour qui peut-être elles sont même précieuses, et qui ne répond pas au désir du Seigneur, ne sentant pas et le privilège et le devoir de cœur qui s'adresse à ses affections de répondre à ce que le Seigneur attend de lui, pensant par cela se mettre à l'abri d'une responsabilité, ne le faisant pas, ne se dégage nullement de sa responsabilité, bien au contraire, il l'augmente encore en ne répondant pas au désir du Seigneur qu'il a exprimé. Nous avons également évoqué le fait que la communion à la table du Seigneur ne peut pas être réalisée avec tout rassemblement de croyants. La question a été posée, comment se fait-il que nous ressentons, nous éprouvons, nous réalisons péniblement, douloureusement ces séparations, alors que nous avons un lien vital et indestructible avec tout racheté du Seigneur en tant que membre individuel du corps de Christ, et que nous passerons l'éternité ensemble auprès du Seigneur. La question requiert une réponse qui est simple, c'est le fait que la responsabilité qui incombe aux croyants, individuellement et collectivement, est pour le passage sur la terre. C'est pendant que nous sommes sur la terre que nous sommes appelés à conformer nos voies et à marcher dans la crainte du Seigneur et lui plaire à tous égards. C'est pendant que nous sommes sur la terre, au sein d'un ensemble corrompu marqué par la souillure qui caractérise ce monde, que les croyants s'en séparant sont appelés à être des témoins. Lorsque nous serons auprès du Seigneur, nous n'aurons plus besoin de mémorial. Il ne sera plus demandé que nous soyons des témoins dans le ciel, à la face de qui? Il ne sera plus non plus demandé d'être fidèles dans le ciel. Nous serons alors libérés de tout ce qui est une entrave en nous-mêmes à la manifestation de tel caractère, étant rendus semblables au Seigneur, nous pourrons alors répondre pleinement à la pensée et aux souhaits de son cœur, et il jouira alors lui-même, se présentant son assemblée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, se la présentant à lui-même, il goûtera éternellement et dans sa parfaite maturité du fruit du travail de son âme.
Au stade où nous en sommes, ayant entendu ces enseignements précis, on peut penser que ceux qui avaient des doutes en entrant concernant l'admission à la table du Seigneur, sont au clair. Ce n'est pas parce que les croyants assemblés au nom du Seigneur sont les meilleurs, comme on le dit quelquefois. Je reprends exprès une phrase que l'on entend. Ce n'est pas à cause de cela qu'ils ne reçoivent pas. Ce n'est pas à cause de nous. Il faut bien que ce soit clair. C'est à cause du Seigneur. C'est le Seigneur qui reçoit. On l'a assez dit, il s'agit de son autorité et de sa présence. Son autorité qui est gérée par l'Assemblée. Il est bien clair que si les chefs de famille qui sont là ont une table dans leur maison, ils ne vont pas recevoir n'importe qui à cette table. C'est évident. Et il en est même pour le Seigneur et pour sa table. Je dis bien, ce n'est pas une question de caractère particulier de croyants qui s'estimeraient pharisaïquement les meilleurs. C'est bien clair, parce que cela s'entend. Et j'y reviens d'une manière pratique, concrète. D'autre part, toujours à la lumière de ce que venons d'entendre, on comprend bien que ce n'est pas un croyant que nous ne connaissons pas, qui vient en passant, qui s'approche de la table, qui peut dire et même exiger sa participation à ce repas. Il se recommanderait lui-même, en fait. On a entendu parler des lettres de recommandation, on a entendu parler des exercices de l'Assemblée pour recevoir quelqu'un au nom du Seigneur. Donc on comprend bien que si quelqu'un, en passant, se disant croyant, s'approche de la table et demande de participer à la scène, cela n'est pas concevable, c'est bien clair. Dans ce stade où nous sommes, des explications et des enseignements, les choses sont mises de côté à ce sujet.
Je voulais dire un mot qui me paraît très important sur ce paragraphe du chapitre 11 concernant l'esprit dans lequel nous devons prendre la scène du Seigneur. Nous avons parlé évidemment de ce qui concerne les associations chrétiennes, mais il y a ce qui nous concerne personnellement. Il y a notre état moral. Tout ce paragraphe y insiste d'un bout à l'autre. C'est très important cela. Dans quel esprit venons-nous prendre la scène du Seigneur? La question est capitale. Elle tient à la gloire du Seigneur, non seulement dans son assemblée, mais à sa table, en rapport avec ce qui y est placé, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sacré au monde, son corps, son sang. La mort du Seigneur qui s'exprime là, c'est les signes qui sont les plus sacrés au monde, et qui nous parlent de ce qu'il y a de plus glorieux pour Dieu, de ce qu'il y a, de ce qui établit pour toujours tout ce que Dieu a eu dans sa pensée depuis toujours. C'est sur cette croix, sur la mort du Seigneur, que tout est établi. Alors, s'approcher de la table du Seigneur et participer à la scène indignement, c'est très grave cela. Et les Corinthiens ne le savaient pas. Ils s'imaginaient qu'ils pouvaient reprendre à la table du Seigneur les coutumes païennes, c'est-à-dire que, bien entendu, ils ne sacrifiaient plus aux démons, ils ne sacrifiaient plus aux idoles, ils ne mangeaient même plus aux idoles, puisque l'apôtre leur enseigne cela, ils ne mangeaient même plus des choses sacrifiées aux idoles, mais ils apportaient à la table du Seigneur les mœurs qu'il y avait aux tables païennes, c'est-à-dire on mangeait, on buvait, on s'enivrait, les uns avaient beaucoup, les autres peu. C'était non seulement mépriser l'Assemblée de Dieu, ce qui est très grave, mais mépriser son frère, mépriser sa sœur, qui ne pouvait pas apporter même de quoi manger. Il y avait des mœurs qui avaient coutume parmi les païens et qu'ils apportaient à la table du Seigneur. Et c'était cela, en cela qu'il y avait une indignité grave dont ils n'avaient pas conscience. Et l'apôtre leur dit, mais vous prétendez, vous, prendre la scène du Seigneur de cette manière-là? Ah non, ce n'est pas manger la scène dominicale d'agir ainsi, pas du tout. Vous pensez manger la scène dominicale? Pas du tout. Vous mangez votre propre repas, les uns beaucoup, les autres peu, les uns ont faim et les autres s'enivrent. Quelle attitude! Ça n'est pas manger la scène du Seigneur, parce qu'ils avaient coutume, après ce repas apporté en commun, de manger ensuite la scène du Seigneur. C'était, somme toute, le repas du Seigneur qui venait, qui accompagnait leur propre repas, et ils ne savaient pas distinguer l'un de l'autre. Ce n'est pas manger la scène du Seigneur si vous mangez de cette manière indignement. Mais, Vous serez responsable d'avoir pourtant mangé la scène du Seigneur puisque vous prétendez le faire. Et c'est pour cela que quelques-uns parmi vous sont faibles, sont malades, quelques-uns ont été frappés de mort, se sont endormis, sont des croyants qui ont été tellement indignes que le Seigneur a dû les juger puisque l'Assemblée ne les jugeait pas. Vous êtes jugés sur ce que vous professez. Vous prétendez manger la scène du Seigneur de cette manière. Ce n'est pas la scène du Seigneur en vérité, mais vous prétendez le faire, vous serez jugés sur cette prétention-là. Et dans la chrétienté actuelle, il en est ainsi. On sait comment la scène du Seigneur est prise ici ou là et comment elle est pervertie dans certains milieux chrétiens, comment les doctrines énoncées dans les églises officielles de multitudes pervertissent le sens même de la scène du Seigneur. Il n'en reste pas moins qu'ils sont responsables de la prendre et qu'ils répondront de cela devant le Seigneur un jour. Et que pour ce qui est des croyants, ils doivent y répondre au temps du jugement actuel, car le jugement commence par la maison de Dieu, comme nous le voyons dans ce chapitre. Alors qu'avons-nous à faire? Qu'avons-nous à faire, nous qui, étant assis à la table du Seigneur, prenons la scène du Seigneur? Nous avons à nous éprouver nous-mêmes. Ah, voilà quelque chose de particulièrement important pour chacun de nous. L'épreuve de soi-même, ce n'est pas simplement essayer de se rappeler le dimanche matin ou le samedi soir de ce que nous avons pu commettre, et qui ne serait pas à la gloire du Seigneur, mais à son déshonneur et à s'en juger. L'épreuve de soi-même, c'est une épreuve continuelle, instant après instant, de manière à ce que la communion avec le Seigneur soit conservée et que la communion à sa table puisse s'exprimer. C'est quelque chose de permanent, de continu. On doit cultiver cela, une épreuve continuelle. Et cette épreuve doit non seulement aboutir à juger ce qui n'est pas à l'honneur du Seigneur, mais aussi à prévenir de telle manière que notre conduite, nos sentiments, nos affections, les motifs qui nous font agir, tout soit en rapport avec ce que le Seigneur attend de nous, en rapport avec sa gloire. C'est cela l'épreuve continuelle aussi, que chacun s'éprouve soi-même, que chacun regarde en soi-même si l'état du cœur est bon, si l'état de la conscience est bon, continuellement. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre de faire des fautes pour s'éprouver soi-même. Il faut le faire continuellement, de manière à avoir le sentiment que nous sommes sous le regard du Seigneur, que nous agissons pour sa gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu, avons-nous lu au chapitre 10. Eh bien, nous ne l'avons pas lu, mais c'est dans le chapitre. Eh bien, il faut avoir ce sentiment. C'est ça l'épreuve de soi-même. Et l'épreuve de soi-même doit conduire à quoi? Doit conduire à manger le pain et à boire la coupe. Voilà. Voilà la conclusion de l'épreuve. Elle n'est pas à dire, est-ce que je peux me permettre de manger le pain et de boire la coupe? Est-ce qu'il me serait possible de le faire? Ou l'épreuve ne conduit pas à une alternative, l'épreuve conduit à une position claire devant le Seigneur. Oui, je peux. L'épreuve doit toujours conduire à cela. La parole ne sanctionne pas une attitude de quelqu'un qui dirait aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'aller prendre la scène du Seigneur, participer à son repas, je ne suis pas en état de le faire. L'épreuve de soi-même, c'est toujours pour conduire à pouvoir le faire, continuellement. Non pas à s'interroger à cet égard, mais être dans l'état qui convient à cet égard. La parole ne sanctionne pas un état intermédiaire ou un mauvais état, elle ne sanctionne qu'un bon état. L'épreuve de soi-même, c'est qu'ainsi il mange du pain et boive de la poudre. Non pas qu'ainsi il s'interroge pour savoir s'il peut le faire, mais qu'ainsi il le fasse. Et même le terme original est beaucoup plus fort encore, puisque l'original nous dit « et ainsi », ça pourrait être traduit littéralement, « et ainsi, quand à l'égard du pain qu'il mange et à l'égard de la coupe, qu'ils boivent. » Voilà comment dans le texte original les choses sont présentées. C'est quelque chose de très fort, de très positif. Il n'y a pas d'hésitation. Alors peut-on se retirer momentanément ou définitivement de la table du Seigneur, ne plus prendre part à la scène du Seigneur? Nous avons dit tout à l'heure que c'est l'Assemblée qui lie et qui délie. L'individu n'a aucun droit à cet égard. C'est l'Assemblée qui ratifie. Quelqu'un qui est à la table du Seigneur, il est à la table du Seigneur. Il ne peut pas s'en retirer momentanément ou définitivement. Ça n'est pas son affaire. Il a à s'éprouver et à être en état de manger et de boire, en état de cultiver la communion avec le Seigneur et avec son Assemblée. C'est tout. L'Assemblée a à juger pour le reste et elle doit le faire. Le chapitre 5 est là pour nous dire ce qu'il y a à faire quand il y a un état de méchanceté. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Mais avant, il y a des, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des actes disciplinaires, il y a des contacts avec celui qui semble être indigne, de façon à ce qu'il s'éprouve pour véritablement être digne. Mais tout doit concourir à ce que nous puissions prendre ainsi la coupe du Seigneur et participer à ce repas du Seigneur d'une façon qui soit digne de lui.
Est-ce qu'on pourrait dire encore quelques mots sur une chose étonnante qu'ont écrite certains de devancés, M. Darby, qui dit qu'il serait anormal et sectaire de refuser de donner la scène à un baptiste ou à quelqu'un d'une autre dénomination qui serait de passage parmi nous. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce sujet ?
On a dit tout à l'heure que si quelqu'un se présentait pour prendre la scène de passage, ce n'était pas possible. Et effectivement, croyons pouvoir dire qu'il en est bien ainsi, mais nous pouvons nous poser la question pourquoi. Et reconnaître effectivement que de même que au commencement de l'assemblée, les croyants participaient spontanément à la fraction du pain, et sans autre formalité, alors que nos frères du siècle passé nous ont dit que 2 Timothée 2 nous faisait l'obligation de recevoir et de veiller justement sur l'état de ceux qui étaient reçus à la table du Seigneur. De la même manière, ce qui a été effectivement pratiqué au début du témoignage le serait bien difficilement de notre temps. Mais nous devons maintenir les choses comme ils les ont pratiquées, et comme la parole nous l'enseigne, c'est que tout croyant a effectivement sa place dans la mesure où il marche dans la séparation du mal. La difficulté pratique consiste justement à en juger et à le reconnaître. Il est difficile de citer aussi un passage isolé d'une des lettres de nos conducteurs du siècle passé. Il faut se nourrir de l'ensemble de leurs enseignements et de tout ce qu'ils ont écrit sur ce sujet pour comprendre quel a été le cheminement. Et comme ils l'ont écrit eux-mêmes, déjà de leur vivant, les choses sont plus difficiles maintenant qu'au commencement. Nous aimerions, et quelque chose, voir venir dans le temps présent des âmes qui découvriraient le rassemblement autour du Seigneur et ce qu'est le rassemblement sur le principe de l'unité du corps, comme cela se produisait il y a 100 ou 150 ans, et même peut-être encore plus récemment, au début du siècle, et qui venaient là, et ils étaient reçus sans qu'on ait exigé qu'ils aient rompu les liens avec le milieu dont ils sortaient, mais nos frères ajoutaient, d'une manière générale, ils restaient là, ils étaient enseignés et ils recevaient après avoir découvert le terrain du rassemblement, ils y restaient. Ce qui se passe de nos jours est quelque chose de bien différent, où le témoignage des frères est connu depuis longtemps, et ce qui se passe, ce sont des personnes qui viennent et qui sont engagés dans des relations ecclésiastiques bien affirmées et qui n'ont pas communion avec les frères dans leur localité ou dans leur région et qui savent pourquoi et puis qui ensuite voudraient à un moment donné rompre le pain dans un rassemblement. Mais cela dans l'esprit qui conduirait à identifier le rassemblement autour du Seigneur à une dénomination parmi d'autres, en disant nous rompons le pain dans notre dénomination et nous avons donc le droit de rompre le pain également avec. Je crois qu'il est extrêmement important que nous posions ces choses devant le Seigneur en nous laissant pénétrer par l'enseignement qui doit être donné par les frères du commencement, c'est vrai, et toute l'histoire du témoignage, ça nous amènera à une profonde humiliation, encore une fois, pour reconnaître qu'effectivement, nous trouvons dans un état présent qui est défaillant à bien des égards. On a dit tout à l'heure qu'un frère ne pouvait pas non plus se recommander lui-même, on le comprend très bien. Mais on pourrait dire, mais il y a quelques frères qui le connaissent et qui peuvent rendre témoignage. Oui. Mais on a souligné aussi la responsabilité de l'Assemblée locale quant à la la réception de cette personne et dans quel rassemblement actuellement y a-t-il une unité de pensée et de vue suffisante pour que deux frères qui rendent un tel témoignage soient convaincus à certains qu'ils ont la pensée ainsi de l'Assemblée tout entière. Cela aussi est un des éléments qui nous tient sur nos faces devant le Seigneur. Même, on trouverait bien des expressions dans les correspondances de nos frères du siècle passé qui traitent de ces sujets. Et ils expriment toujours justement ce profond sentiment de douleur et d'humiliation en signalant qu'effectivement il y a ces deux dangers. Le danger de relâchement et de ne pas veiller sur l'entrée des âmes dans l'Assemblée et d'autre part le danger d'être sectaire. Et ils disent bien que nous avons à être séparés, mais que le fait même de l'être comporte en soi le danger de venir. Et nous devons en avoir conscience. Et en porter l'exercice profondément devant le Seigneur, par sa parole. Et nous verrons alors, si nous laissons travailler par ce moyen, que nous serons amenés à comprendre précisément l'attitude que le Seigneur nous donne présentement. Que le Seigneur veuille nous accorder ce travail de cœur, individuellement et collectivement. La plupart, bien des frères ont depuis longtemps médité, sont laissés pénétrer par ces lumières que les enseignements de nos frères du siècle passé jettent sur la parole et sur les passages que nous avons présentement entre nos mains. Et nous invitons justement tous les jeunes à se pénétrer cet enseignement, qu'ils s'en pénètrent à fond, mais qu'on ne vienne pas choisir ici ou là telle ou telle parole ou tel extrait d'une lettre, d'un écrit du siècle passé et sans le replacer dans tout l'enseignement d'ensemble qui nous a été donné par leurs moyens. On ne peut pas, en quelque sorte, revendiquer une chose et rejeter l'autre. Et il est bien clair que le chemin de la séparation qu'ils nous ont enseigné est un chemin difficile, un chemin douloureux, un chemin de plus en plus difficile, que Dieu nous garde de marcher dans une séparation hautaine ou de supériorité, on l'a dit bien des fois, mais que nous ayons réellement le sentiment d'avoir affaire à celui qui a l'autorité, au Seigneur lui-même.
Encore un mot. Les trois lettres de M. Darby dans le messager qui traitent de ce sujet d'une réception occasionnelle doivent être lues de leur entier. Et M. Darby dit que quant à lui-même, il ne pensait pas qu'il doive mettre une condition à ce que la scène puisse être donnée occasionnellement à un frère connu, même s'il appartenait à une autre dénomination. Mais d'un autre côté, et c'est la contrepartie, la vérité a toujours deux faces. Et l'équilibre doit être toujours gardé entre deux dangers contradictoires. L'autre côté, c'est qu'il ne pouvait pas supporter non plus que lui-même, ce frère qu'on recevrait occasionnellement, mette la condition qu'il soit libre d'aller des deux côtés. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'actuellement, la chrétienté est dans une immense confusion. Et le témoignage que dans sa grâce le Seigneur a suscité il y a 150 ans est aussi dans un état de ruine et de faiblesse. Pour ne citer qu'un seul exemple, dans une ville de l'Écosse, on a dénombré récemment 6 rassemblements différents qui ne marchaient pas les uns avec les autres, qui sont tous issus du réveil du siècle dernier. Où en sommes-nous? Alors, si nous avons bien compris les choses, nous ne lèverons pas la tête, mais nous serons abîmés de douleur. Faut-il être découragé? Non. Faut-il chercher à repousser les bornes? Une expression se trouve en Proverbe et en Jérémie. Faut-il balancer des barrières? Non plus. Toute tendance à l'écuménisme montre que nous n'avons pas compris la position que le Seigneur nous fait l'honneur de nous accorder par grâce. Pas parce que nous sommes meilleurs et que nous sommes plus fidèles, ni l'un ni l'autre. Il faut simplement rester là où nous sommes, là où le Seigneur nous a placés, en reconnaissant son autorité. Rappelons-nous, je crois que deux frères l'ont cité ce matin,
qu'à Jérusalem, il y avait des murailles. Et que lorsque Néhémie est arrivé, il a bâti les murailles, il y a mis les portes et les barres. Et qu'on ouvrait les portes quand le soleil était chaud. On remarquera en passant aussi qu'un passage merveilleux d'Ésaïe nous dit que c'est sur les murailles même de Jérusalem que le Seigneur a établi ses gardiens et ceux qui vont chanter la louange. Donc actuellement, les murailles, c'est pour le temps présent. À Jérusalem, lieu de la ville du grand roi, cité du peuple d'Israël, correspond la nouvelle Jérusalem et la Jérusalem céleste. Chers frères et sœurs, la Jérusalem céleste, elle aura bien des murailles, elle aura bien des portes qui sont des perles. Les portes seront ouvertes. Pendant le jour, il n'y aura pas de nuit. Donc, il n'y aura plus besoin de vigilance. Nous n'en sommes pas arrivés là. Néanmoins, et je voudrais le placer particulièrement sur le cœur de nos jeunes, néanmoins, élevons-nous à la hauteur des conseils et de la grâce de Dieu. Lorsque nous rompons le pain à la table du Seigneur, être en deçà de la pensée de Christ qui inclut tous les rachetés du Seigneur sans exception. Le pape, si c'est un croyant, tous les ecclésiastiques du monde, tous ceux qui se réclament du nom de Christ et qui sont dans un système humain, nous les embrassons dans nos cœurs et dans nos affections. Sans entrer dans les détails, je voudrais placer sur le cœur de nos jeunes trois exemples. Au Carmel, Élie a rebâti un autel de 12 pierres. Et pourtant, il y avait 2 tribus à Jérusalem, il y en avait 10 en Samarie. Le lieu où Dieu avait fait habiter son nom était à Jérusalem. Et bien, dans la pensée de Dieu, qui a été comprise par Élie, il y avait 12 pierres et non pas 2 et 10. Lorsqu'Ézéchias a célébré la Pâque, il a envoyé des courriers à travers tout Israël. Ils n'ont pas célébré la Pâque à Samarie. Ils sont revenus à Jérusalem pour la célébrer. Lorsqu'Esdras a rebâti l'autel sur son emplacement et que les fondements de la maison ont été posés, on a célébré un sacrifice pour les 12 tribus d'Israël. Et en Actes 26, peut-être, Paul dit que sans relâche, il faisait des prières pour les 12 tribus, pour l'ensemble du peuple céleste de Dieu. Mais le fait que nous montions dans une mesure au moins à la hauteur des pensées et des conseils de Dieu ne nous empêchera pas. Et c'est le chemin et de la bénédiction et de la fidélité au Seigneur Jésus, de marcher dans un chemin étroit, en soumission à l'autorité de Christ et à l'autorité de sa parole, avec un cœur tout à fait large.
Peut-être encore une recommandation pratique, simple, concernant la vie des assemblées en général, et cette question de réception à la table du Seigneur. On a dit tout à l'heure qu'il ne convenait pas de forcer la conscience de l'assemblée. Usons dans la vie des assemblées, d'une manière générale, de délicatesse à l'égard des consciences et des cœurs. Pensons d'une manière particulière à des frères qui sont âgés, qui n'ont plus peut-être la capacité de dire les choses, de les exprimer comme il faudrait, mais aussi nos sœurs d'âgés. Elles ressentent bien des choses, elles en souffrent quelquefois profondément, sans pouvoir rien dire, de par leur condition de femme, de par leur âge. Usons délicatesse à leur égard, évitons de les froisser. Je dis bien, dans le cadre de cette question de réception forcée à la table du Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il y a ce dont toute l'assemblée entière est composée, les membres du corps de Christ, et dans une assemblée locale, ces 2 catégories de personnes, que je recommande d'une manière particulière aux jeunes croyants. Agissons avec délicatesse de cœur et de sentiment.